Radio Okapi.
Vingt-sept civils tués dans une attaque attribuée aux rebelles ADF dans la nuit de vendredi à hier samedi à Mamboumé, dans le territoire de Beni. Plusieurs habitants de ce village voisin de Mamové seraient également introuvables jusqu'à présent, indiquent des sources de la société civile. Tenue du 19 au 21 mars prochain de la première conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga, le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique appelle à accompagner ces travaux qui réuniront des chercheurs nationaux et internationaux en volcanologie et en disciplines connexes. Bonjour à tous. Des sources de la société civile révèlent ce dimanche qu'une vingtaine de personnes ont été tuées lors d'une attaque des présumés rebelles ADF dans la nuit de vendredi à samedi à Mamboumé, dans le territoire de Beni. Plusieurs habitants de ce village voisin de Mamové seraient également introuvables. Jusqu'à présent, la société civile de Mamové parle d'un bilan encore provisoire, expliquant que des recherches se poursuivent pour retrouver les personnes qui manquent à l'appel. André Kitté pour les détails.
Le président de la société civile de Mamové rapporte que c'est vers 21h heure locale que les assaillants ont fait incursion dans le village de Mamboumé. Le premier bilan fait état de 27 civils tués, pour la plupart à l'armée blanche. Les présumés ADF auraient d'abord tué 10 civils dans les villages de Moutouei et Makakwa avant de terminer leur opération à Mamboumé, où ils ont tué 17 autres civils, précise le président de la société civile de Mamové. Kinos Katuo parlait également des dégâts matériels enregistrés lors de cette attaque meurtrière.
Pour le moment, nous avons un bilan de 27 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées et des motos aussi incendiées, plusieurs personnes portées disparues. L'ennemi s'est divisé en trois parties. Une autre partie s'est orientée vers Karalangwe, tout près de la rivière Mutu et tout près de la rivière Samboko, où on a enregistré aussi 5 personnes tuées. Et une autre partie de l'ennemi a pris la direction de Makakwa, tout près du village Mandimo, à Diago. Qu'on a avec l'agglomération de Mamové de Mangazi.
Contacté, l'armée ne confirme pas encore cette attaque. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushai, promet de se prononcer après avoir réuni toutes les informations auprès des services spécialisés. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Quitter les groupes armés pour une paix durable au sud de Kivu, c'est le thème d'un atelier qui a réuni pendant 3 jours dans la ville d'Uvira plus de 100 acteurs représentant une trentaine de groupes armés locaux d'Uvira, Fizi et Itombwe, Mwenga. L'atelier ouvert officiellement jeudi dernier par le gouverneur de la province du sud Kivu a été clôturé hier samedi par le ministre provincial de l'Intérieur en présence du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilisation PDDRCS, Tommy Tambwe. C'est l'association des jeunes pour le développement communautaire en partenariat avec le PDDRCS, un projet appuyé par l'ONG américaine Innovation in Peace Building International. Fiston Ngoma nous fait le point.
Ils sont venus de moi et au plateau d'Ouvira, Fizi et Tambwe. Ils ont représenté des groupes armés qui veulent enterrer la hache de guerre et vivre ensemble.
Groupe Mai Mai de peuples autochtones pygmées au Pékenya. Nous sommes aussi acquis à cette cause à travers notre mouvement et nous allons les soutenir aussitôt que les choses sont claires et si les gens sont responsables et véridiques.
Par une méthodologie simplifiée et adaptée, le coordonnateur de PDDRCS a dirigé pendant 3 jours les travaux en carrefour, Tommy Tambwe.
Nous avons procédé à l'évaluation du DDR1, DDR2, DDR3. Nous avons dégagé les causes des échecs et par la suite, sommes arrivés à proposer de manière pratique l'approche qu'il faut pour aider à ce que le DDR4 puisse réussir.
Pour réussir, il faut coupler les questions de la recherche de paix et cohésion sociale, les besoins des communautés, des relèvements communautaires et des stabilisations. Les participants ont en outre dressé une cartographie des groupes armés dans la région pour la réinsertion des communautés. Ils ont identifié des filières réalistes, parmi lesquelles les infrastructures routières pour désenclaver leur milieu, PDDRCS va intégrer comme action prioritaire l'aménagement des sites et la réduction de ces groupes armés. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Pour rappel, ce projet d'appui à la résolution des conflits intercommunautaires pour le rétablissement d'une paix durable dans la partie sud du Sud Kivu vise à contribuer à la consolidation d'une paix durable et à l'éradication réelle de la violence dans Uvira, Fizi et Mwenga. Les représentants de ces groupes armés ont signé l'acte d'engagement devant le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu et sont désignés ambassadeurs du programme PDDRCS auprès de leur milieu respectifs. Ils seront accompagnés par l'ONG AJDC. Au Nord Kivu, troisième jour des audiences foraines à Rutshuru Centre. Elles sont organisées par le tribunal militaire garnison de Goma. 30 dossiers de violence basés sur les genres sont fixés devant deux chambres qui se tiennent à Kiwanja et à Rutshuru Centre. 5 prévenus, hommes en uniforme, comparaissent aussi. C'est pour lutter contre l'impunité des violences basées sur le genre. Denise Loukesso pour les détails.
Parmi les prévenus figurent des hommes en uniforme. Ils sont tous poursuivis pour diverses infractions, viols, vols qualifiés et meurtres notamment. Des faits commis entre novembre 2020 et janvier 2022. Maître Bernadette Mounounou, responsable du volet juridique au sein du consortium qui appuie ces audiences, parlait du déroulement et de leurs attentes.
Déjà 20 dossiers plaidés et pris en délibéré. En tout cas, ça avance bien parce que toutes les parties sont vraiment actives dans ces audiences et les victimes comme témoins comparaissent, en tout cas tout évolue bien. Nous attendons que les tribunaux puissent se prononcer au jour prévu, c'est-à-dire au 18 mars, qu'il y ait des décisions et surtout des décisions de condamnation parce que nous sommes dans la lutte contre l'impunité des violences basées sur les genres. Il faut que la population de Rutshuru voient et sentent que la justice en République démocratique du Congo existe bel et bien.
Les audiences qui vont durer 10 jours sont organisées avec l'appui financier du consortium Caritas Développement Goma, Dynamique des femmes juristes et les collectifs Alpha Ujuvi, avec les financements du Fonds social de la République. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
En Ituri, le ministre des Affaires humanitaires a remis hier samedi un lot important des vivres et articles ménagers à des milliers de déplacés du territoire de Djougou et celui de Mahagi. Environ 170 familles de personnes tuées par la milice Codeco en début février dernier ont également bénéficié d'un montant fourni par le gouvernement. À l'occasion, un culte a été organisé en mémoire de toutes les victimes des atrocités de groupes armés en Ituri. Isaac Raymond, reportage.
Le gouvernement de la RDC a fourni une aide alimentaire aux déplacés de l'Ituri. Cette assistance composée notamment des farines de manioc, d'haricots et d'huile végétale ainsi que des casseroles et autres articles ménagers ont été remis par le ministre des Affaires humanitaire Modeste Mutinga. Selon ses propos, ce don est destiné aux déplacés des différents sites dont Roé, Boulé, Komanda dans les territoires de Djougou et Irumo. Plus de 13 camions ont quitté samedi Bounia pour acheminer de l'aide à Djougou. D'autres devraient partir à Komanda. 161 familles de personnes lâchement abattues par Codeco le 1er février 2022 ont reçu un fonds de réconfort. Ces meurtres se sont déroulés entre autres au village d'Héro, Boulé, Bambou, Ezekere et Drodro. Le ministre a déclaré que le gouvernement a éprouvé une grande douleur pour ces personnes et toutes les victimes des atrocités des groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. Un culte a été organisé au terrain de Lepo, en ville de Bounia, pour compatir avec toutes ces personnes. Pour rappel, la province de l'Ituri compte environ 1 700 000 déplacés qui ont besoin de l'assistance. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En bref, le président Félix-Antoine Tshisekedi a signé ce week-end 3 ordonnances présidentielles. L'une portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national et l'autre portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo ainsi que l'ordonnance portant nomination dans la catégorie des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Notons que ces ordonnances qui ont été lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaises ont été signées à partir de l'ambassade de la Belgique, de la République démocratique du Congo au Royaume de Belgique où le président Tshisekedi séjourne pour des raisons sanitaires. Parlons également de cet appel du ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques à la presse congolaise à accompagner les travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga. Appel lancé hier samedi ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. José Mpanda souligne que ces assises qui se tiendront à Goma du 19 au 21 mars courant réuniront des chercheurs nationaux et internationaux en volcanologie et en discipline connexe. José Mpanda le dit à Paul Matendo.
J'appelle l'accompagnement de la presse congolaise pour que les scientifiques congolais, les expatriés qui viendront comme chercheurs, soient suivis à travers le monde, puisqu'il n'y a pas seulement les côtés négatifs du volcan, mais il y a aussi les côtés recherche. La guide conférence aura pour mérite de réunir autour d'une tribune scientifique des chercheurs et experts nationaux et internationaux en volcanologie et en discipline connexe en vue de mutualiser les échanges scientifiques et déboucher sur des stratégies et méthodologies idoines devant augmenter les capacités de surveillance de l'OVG. En même temps, il sera statué sur l'accompagnement de l'OVG par les différents partenaires scientifiques, techniques et financiers, ainsi que sur les plans de contingence qui aura anticipé la gestion des risques volcaniques.
Au moins 90 entreprises belges seront en mission économique à Kinshasa du 19 au 25 mars. L'annonce a été faite par la conseillère économique et commerciale à l'ambassade de Belgique en RDC, Laurence Abram, à l'issue de la rencontre avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le vendredi 11 mars. Plus de détails avec vous, Pierrot Elamenji.
C'est sous le thème « Plan industriel de la RDC, quels besoins de la RDC, quelles opportunités pour les sociétés belges » que cette mission va se dérouler selon la dépêche de la cellule de communication du Sénat publiée samedi 12 mars. Une mission qui va permettre aux entreprises belges de découvrir les différentes opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment les secteurs de la construction, l'énergie, l'eau et l'électricité. Toujours selon la cellule de communication du Sénat, le président de cette chambre du Parlement, Modeste Bahati, a réitéré le vœu de voir les entreprises belges revenir au Congo où leur présence se fait de plus en plus rare. La dépêche nous renseigne également que des rencontres d'affaires entre les entrepreneurs congolais et belges sont également prévues au calendrier de cette mission économique et commerciale. Et enfin, sur sa dimension politique, cette mission permettra aussi à la ville de Kinshasa et celle de Bruxelles de nouer des relations des coopérations.
Incendie à répétition à Kinshasa avec mort d'homme et dégâts matériels importants. Des voix s'élèvent pour que la ville de Kinshasa organise d'une manière efficace le service anti-incendie, pouvant faciliter à la population de se doter à moindre frais des détecteurs des fumées et des extincteurs d'incendie. Cette proposition est du président de Detect International, une société spécialisée dans la prévention et gestion des incendies. Claude Malouma, son président, qui affirme avoir livré au gouvernement central plus de 40 000 détecteurs des fumées et extincteurs d'incendie qui malheureusement n'ont pas encore été installés, appelle également la population à être vigilante afin de prévenir ces cas d'incendie à répétition. Claude Malouma est joint par Pierrot Elamenji.
Où nous, on devrait, ensemble avec la ville, promouvoir les détecteurs de fumée, le vendre le moins cher pour que tout Congolais puisse avoir un détecteur de fumée. Le défi de fait, dès que le premier fumée, le détecteur fait un bruit sonore qui réveille les gens qui dormaient, pour qu'enfin on puisse prendre l'extincteur pour éteindre le feu. Nous avons livré des extincteurs dernièrement au gouvernement central, qui devaient être installés dans les bureaux administratifs de l'État pour protéger le dossier de l'État et tout. Ces extincteurs ont été vendus par des individus. Et aujourd'hui, nous avons écrit au gouvernement central pour leur livrer les extincteurs qui nous ont payé l'argent qu'on livre. Aujourd'hui, troisième lettre, nous demandons au ministère d'intérêt de récupérer. Personne ne manifeste. Je vois que la vie humaine du point de vue incendie, certaines personnalités font semblant, ils veulent pas travailler pour la population. Chacun doit prendre conscience et protéger sa famille.
Actualité internationale.
Après le Covid-19, l'invasion russe en Ukraine menace fortement le secteur agricole et la sécurité alimentaire des millions de personnes au Nigeria, particulièrement dans le bassin du lac Tchad, affecté depuis plus d'une décennie par l'insurrection de Boko Haram. Plusieurs acteurs du secteur de l'alimentation ont fait part de leurs inquiétudes cette semaine à Lagos lors de leur forum annuel. La Chine enregistre près de 3400 cas de coronavirus en un jour record en deux ans. Le pays a recensé 3393 cas de Covid-19 ce dimanche, selon des données officielles, un record depuis les débuts de l'épidémie en février 2020. En raison d'un pic des cas à travers le pays, les autorités ont fermé les écoles de Shanghai et confiné plusieurs villes du nord-est, tandis que plus de 10 provinces s'empressent d'endiguer des foyers locaux.
L'invité.
Dans la plaine de la Ruzizi, le PAM, l'UNICEF et la FAO, en collaboration avec le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Développement Rural, la Division provinciale des Affaires sociales et le ministère provincial de l'Éducation, ont procédé vendredi au lancement officiel du programme d'alimentation scolaire dans les volets éducation à la nutrition par le gouvernement provincial à Sangué, dans les territoires d'Ouvira. La cérémonie de remise des infrastructures et de lancement des activités d'alimentation scolaire s'est déroulée en présence de trois ministres provinciaux et de hauts responsables des PAM, FAO et UNICEF. Francis Alain Béret est notre invité. Il est le chef de bureau de PAM Bukavu pour le Sud Kivu et le Maniema. Il s'entretient avec Fiston Goma.
Francis Béret, bonjour. Vous êtes chef de bureau du programme alimentaire mondial basé à Bukavu pour le Sud Kivu et le Maniema. 19 000 écoliers des 53 écoles primaires de la zone de santé de la Ruzizi sont touchés directement par ce projet de cantine scolaire. Comment fonctionnent ces programmes d'alimentation dans la Ruzizi?
Et comme vous le savez, le PAM est une agence du système des Nations Unies. Et nous avons pour mandat de lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde. Et notre principe est de sauver des vies et de changer des vies. Dans ce, quand on prend ce cadre-là, vous comprenez que si nous voulons changer des vies, il va falloir, dans le contexte africain, dans le contexte de la RDC, procéder à l'éducation. Nous avons constaté que la femme en milieu rural est généralement une personne travailleuse avec beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas les connaissances et la capacité nécessaires pour pouvoir être un élément dans le moteur du développement des zones. Et pour l'amener à ce niveau, il y a la nécessité qu'elle soit formée, éduquée, alphabétisée. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet de la résilience financé par les Allemands, nous avons initié cette activité d'alphabétisation pour pouvoir accompagner les femmes productrices à pouvoir apprendre des connaissances, de nouvelles techniques agricoles et être capables de gérer de petites affaires.
Alors, au niveau des cantines scolaires, ça fonctionne comment? Est-ce que vous achetez de la nourriture pour donner aux enfants ou bien vous achetez la production locale pour nourrir les enfants dans les écoles?
De manière générale, nous ne procédons pas les deux. Il y a des écoles du type classique du PAM où nous achetons sur le marché local ou sur le marché international pour alimenter en fait les élèves. Mais de plus en plus, compte tenu du fait que nous appuyons aussi les petits producteurs à augmenter leur capacité de produire, le surplus créé crée une opportunité d'achat par le PAM pour alimenter en fait, les écoles où nous mettons en place l'alimentation en fait, scolaire. Et nous les encourageons aussi à produire en qualité et à diversifier pour pouvoir avoir des aliments et beaucoup plus riches que les enfants pourront manger au niveau des écoles.
Alors, à cette étape ici, il n'y a pas encore de grandes productions agricoles dans la plaine de la Ruzizi à cause de la sécheresse. Comment vous comptez vous comporter pour nourrir les écoliers dans les écoles?
Exact. La production, elle existe déjà, sauf qu'elle n'est pas déjà à l'échelle, c'est-à-dire que ce n'est pas déjà une grande quantité. Mais nous poursuivons les efforts avec la FAO et l'UNICEF pour augmenter les capacités de production et produire plus. Maintenant, qu'est-ce que nous ne faisons dans l'entretemps? Comme vous le savez, nous avons des ressources alimentaires que les pays donateurs nous donnent. Nous mettons à contribution ces ressources alimentaires-là pour faire fonctionner les cantines. Mais ça, c'est une stratégie de transition. Très bientôt, quand la production sera à un certain niveau, au niveau des petits producteurs, le PAM pourra acheter directement au niveau des petits producteurs pour alimenter en fait, les écoles. Le bénéfice dans ça, en fait, il est plusieurs. Il y a le fait que le petit producteur, il voit ses capacités renforcées, il produit pour sa consommation et le surplus est orienté vers le marché. Un des bénéfices est que les élèves qui sont dans ces écoles ne sont que les enfants de ces producteurs. Donc du coup, eux aussi, ils ont à manger dans les écoles avec des produits locaux qui répondent à leurs habitudes en fait, alimentaires. D'accord. Et ça constitue aussi un gain économique parce qu'un enfant qui mange à l'école, ça constitue une charge en moins au niveau en fait, des ménages. Ce n'est pas la première fois que le PAM développe un programme de cantine scolaire à l'est du Congo et précisément au sud Kivu. C'est des programmes qui, en fait, qui existaient avant. Maintenant, ce que nous venons de commencer, c'est une nouvelle formule de cantine scolaire que nous appelons alimentation scolaire basée sur les produits locaux. Et je voudrais bien qu'on comprenne cela parce que, là, à terme, ça ne serait plus des produits achetés ou bien importés, ça serait des produits produits localement par les comités des parents d'élèves et qui seront achetés pour pouvoir alimenter la cantine scolaire. Et pour le plus long terme, le PAM et ses partenaires comptent se désengager et faire en sorte que cette production et le lien qu'il y a avec l'école soient développés et soient soutenus par la communauté même et voire avec une implication des services étatiques.
Merci beaucoup.
Merci.
Fin de ce journal. Les éditions de ce dimanche avant midi étaient coordonnées par Noëlla Louzitou et Pierrot et la Mégie, mise en onde par Alain Goy. Je suis Jocelyne Moussaoupodé. J'étais à la présentation. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.